C'est payant d'écouter Boulevard 102.1 parce qu'on a souvent des entrevues exclusives et celle-ci en est une avec le ministre de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, qui fait sa première entrevue radio avec nous ici à Boulevard 102.1. Monsieur Simard, bienvenue sur nos ondes.
Jean-François, merci de m'accueillir.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être présent. Ça se passe bien depuis vos débuts comme ministre de la Capitale-Nationale?
Écoutez, c'est un défi emballant, stimulant. J'y vois le défi de ma vie, en quelque sorte.
Et vous l'avez attendu, ce défi-là, hein, parce que ça fait longtemps que moi je vous connais politique. Ça fait longtemps que je vous connais comme étant très investi. Je n'avais même pas commencé ma carrière à la limite.
Êtes-vous en train de dire que je suis vieux?
Non, pas du tout. Expérimenté. C'est ça que je suis en train de dire.
Vous avez la forme d'un gars de 20 ans, je peux vous le dire. Vous êtes en studio, c'est une tornade.
Mais permettez-moi de poser une question difficile. Pensez-vous qu'on vous a donné cette lumière-là parce que il se passe beaucoup de choses au sein de la CAQ depuis plusieurs mois, puis que les ministres, tiens, ou les députés, ou ceux qui étaient un peu plus de l'avant, ont perdu de leur lumière. Puis vous, ben, vous avez toujours été là, fervent en politique, impliqué, mais vous n'aviez peut-être pas cette notoriété de certains qui avaient été mis de l'avant dans les dernières années.
Ben, écoutez, on peut faire beaucoup de spéculations. Chose certaine, c'est que lorsqu'on s'engage en politique, on ne sait pas trop... Tu sais, comment ça va finir d'abord, ce qu'on va gagner, puis si on gagne, est-ce qu'on va être majoritaire, est-ce qu'on va être minoritaire, si on est majoritaire, quel rôle on va jouer. Donc, je pense que moi, j'étais à l'université, j'aurais pu rester à l'université, j'avais un job, bien assuré comme professeur, dans un très bon établissement, j'aimais ce que je faisais, puis, mais quand j'ai fait quand j'ai pris la décision de revenir en politique, c'est avec une certaine, je sais pas trop comment vous le dire.
Un
lâcher-prise, oui, en définitive. Au moment où, je me souviens, au moment où j'ai dit à François Legault, « OK, François, je reviens dans Montmorency », les sondages ne nous donnaient pas gagnant. Puis même certains disaient que les libéraux étaient au pouvoir pour 1000 ans, vous en souvenez? Mm-hmm. M. Léger disait
en 2018.
Ça à l'époque. Donc, tu sais, je l'ai fait parce que je croyais que c'était nécessaire de changer les choses, de nous changer de la vieille alternative PQ, Parti libéral, qui nous amenait dans un cul-de-sac.
Mais c'est pas ingrat, ça? Travailler aussi fort, quitter à un moment donné la politique, revenir, puis que ça soit dans la débandade du parti qu'on dit « Ben oui, M. Simard, vous avez la crédibilité pour finalement avoir ce rôle-là dans la Capitale-Nationale. »
Ouais, je ne vous cacherai pas que ce n'est pas forcément une situation extraordinairement facile, mais je le vois de manière constructive et positive. Donc, au lieu de voir le verre à moitié vide, je le vois à moitié plein. C'est extraordinaire le potentiel qu'on a devant nous.
Parlant de situation pas facile, il y a le Mont-Saint-Anne cette fin de semaine. Encore une fois, la saison retardée, des problèmes électriques, la régie du bâtiment qui dit que ce n'est pas sécuritaire.
Ouais.
Plusieurs personnes demandent qu'on retire RCA de la gestion du Mont-Saint-Anne. On avait entre autres un commerçant, Sylvain Laroche, le copropriétaire de la brasserie des Monts.
Oui.
On en est tout là à 8h30 ce matin, lundi.
Bien, Jean-François, d'ici quelques minutes, le ministère de l'Économie et Investissement Québec rencontre M. Edward, qui est le propriétaire de RCR, pour lui signifier que l'entente que nous devions annoncer cette semaine, jeudi ou vendredi, on y touchait du bout des doigts, là. C'était presque concrétisé. Elle est sur la glace.
Okay.
Elle est sur pause. La régie du bâtiment fait un ultime audit de vérification parce que c'est la sécurité d'abord, mardi et mercredi. Et au terme de ce résultat, on prendra les décisions qui s'imposent, mais au moment où on se parle, Jean-François, il n'y a aucune option qui n'est exclue.
Donc,
aucune.
Ça se peut que vous clairiez RCR, là, pour prendre ce terme-là, ce jargon-là.
Le corridor dans lequel on manœuvre, il est très étroit. Parce que d'un côté, on a, admettons, le préfet de la MRC, M. Lefrançois, qui veut qu'on sécurise l'annonce du 50 millions.
Mm-hmm.
Puis de l'autre côté, on a des gens qui, comme le commerçant tout à l'heure, voudraient qu'on tire carrément, permettez-moi l'expression, la plug. Donc, on a un corridor qui est étroit et il nous faut d'abord prendre en considération la sécurité des gens. Puis dans un deuxième temps, au terme de ce que la régie va nous dire, prendre les décisions qui s'imposent. Et a priori, je vous le redis, nous n'excluons rien.
Est-ce que c'est une porte de sortie pour vous, la sécurité, pour essayer de casser un contrat de 100 millions d'années, tiens, avec RCR au niveau du Mont-Saint-Anne? Parce que vous dites que c'est étroit, ce ne sera pas une politique de satisfaction. On n'aura pas une satisfaction à 100% de quiconque qui est touché dans le dossier, que ce soit le préfet de la Côte-de-Beaupré, M. Lefrançois, que ce soit l'entreprise en tant que telle, les commerçants autour. Est-ce que c'est votre porte de sortie, la sécurité? Parce qu'on dirait que ce contrat-là, pour une raison qu'on ignore puis qu'on essaie d'avoir une réponse à, est comme incassable. On peut pas arrêter ce contrat-là. Et de l'autre côté, votre opposant, le Parti québécois, dit, ben nous autres, si c'était entre nos mains, là, ouais. ben on arrêterait tout simplement le contrat avec RCR.
Oui, effectivement. Ben, tu sais, ça, c'est la pensée magique du PQ traditionnel. Je m'excuse de le dire, là, mais si c'était aussi facile que ça, là, on le saurait déjà. Parce qu'il y a des contentieux et des contentieux de bureaux d'avocats qui sont passés pour nous dire que le bail amphidéotique que les libéraux ont signé en 2014 avec RCR, un bail amphidéotique de 99 ans, est très difficilement, cassable.
Ça coûterait trop cher?
Bien, écoutez, moi, je ne suis pas un avocat, donc je ne veux pas commencer à parler en avocat. Mais chose certaine, c'est que c'est une possibilité qu'on regarde, mais imaginez-vous là, les recours juridiques que ça peut entraîner, les délais potentiels que ça peut entraîner, trouver un nouvel acheteur qui peut-être potentiellement va nous redemander autant de sous que l'actuel propriétaire nous demanderait. C'est, autrement dit, il y a beaucoup de... Tu sais, on est dans une perspective où on hérite d'une situation très, très difficile, où finalement on avait littéralement donné en 2014 la montagne à une entreprise. Voilà.
Mais là, ça fait un an qu'on a annoncé cette entente-là où on allait investir du côté du gouvernement à condition qu'on investisse aussi du côté de RCR. Pourquoi un an plus tard, on est encore dans la situation où on est encore en discussion, puis là, on va peut-être investir, mais peut-être que ça fait un an là, qu'on attend, puis on n'a pas de nouveautés.
Maxime, c'est une très, très, très bonne question. Puis on a peut-être, nous, de notre côté du gouvernement, oublié de rappeler que cette entente que nous avions annoncée l'an passé, elle était conditionnelle au règlement d'une autre entente qui concerne le pourtour est de la montagne, qui était, elle aussi, par bail amphidéotique, littéralement donnée à RCR. C'est un vaste terrain de plus de 42 km carrés où on y fait du ski de fond, du camping, du vélo de montagne, de la randonnée. Et on a finalisé avec la CEPAC, puis c'est ce qu'on devait annoncer cette semaine, puis qu'on va peut-être néanmoins annoncer, le règlement, on va annoncer qu'on a repris ce terrain-là, que la CEPAC redevient le propriétaire et, l'opérateur des lieux.
C'est-tu pour vous contenter qu'on vous a redonné ça du côté d'RCR, puis là, vous êtes un peu baïonné puis prise au piège, parce qu'on vous dit, ouais, dans la dernière discussion, ben on vous a donné le côté S, vous pouvez l'opérer comme vous voulez. Lâchez-nous, là, respectez votre contrat pour la suite.
Bien, c'était beaucoup demandé par le milieu que nous puissions reprendre le compte au reste de la montagne.
Oui, j'ai beaucoup d'amis qui font du ski de fond là-bas, puis ils étaient très heureux de cette situation-là.
Ouais. Puis l'objectif aussi, c'était de faire de cette montagne une montagne quatre saisons. Donc, bien sûr, le ski alpin, le ski de fond, mais en faire aussi un endroit que l'on peut fréquenter, utiliser, apprécier l'été.
Donc, on conclut... RCR, c'est sur la glace, autrement dit. Donc,
c'est
y a
sur
pas,
la glace, y a sans pas mauvais
d'options.
Jeu de mots. Là.
Exactement. Il n'y a pas d'options qui ne seront pas privilégiées. Tout est sur la table à l'heure actuelle. Oui. On va avoir des nouvelles quelque part mercredi, jeudi.
Il est possible que la régie rende son verdict jeudi également. Il faut laisser le temps aux spécialistes le temps d'écrire leur rapport. Mais on va le faire le plus rapidement possible parce que l'intention là, qui nous habite, c'est de sauver la saison de ski.
Parfait. Vous voulez sauver la saison de ski.
Absolument.
Saint-Roch, cité universitaire. Oui. Vous avez piqué ma curiosité dans le Journal de Québec ce matin. Ben oui, parce que moi, je suis un gars de la basse ville. Je suis allé justement à Saint-Roch samedi. J'ai été très heureux de constater que le spectacle aura avait des retombées très positives pour le milieu.
Oui, quelle belle église. Hein?
Oui, mais là, comment on va transformer le quartier Saint-Roch qui présentement vit un très grave problème d'itinérance en cité universitaire?
Oui, bon. Alors là, c'est un truc qu'on va faire conjointement avec le maire de la Ville de Québec, Bruno Marchand.
Annonce en janvier.
Bien, on voudrait faire ça, oui, ensemble, janvier, peut-être février.
Mais là, j'imagine que vous allez nous donner une coupe de scoop à matin.
Hey, j'ai quasiment plus le choix, là.
Bien, pas le choix, hein?
mais l'idée, c'est de faire ça en partenariat avec Alexandre Cloutier, qui est le président du réseau UQ. Vous savez que Jean-Paul Lallier avait eu à l'époque un rêve qui était celui de réanimer Saint-Roch, qui souffrait beaucoup à l'époque, vous vous en souvenez, vous êtes un petit gars de l'endroit. Hein? Et puis... alors, il y a là, il faut que les gens s'en rappellent, le siège social de l'UQ, on a l'ENAP, on a la TELUC, on a l'INRS, on a pas tellement loin sur le boulevard Charest, la Faculté des arts et d'architecture de l'Université Laval. Puis en haut, là, avec l'Hôtel Dieu, on voudrait à terme, lorsque l'Hôtel Dieu sera fermé, en faire un lieu d'études universitaires. Donc, à l'époque, Jean-Paul Lallier, lui... voyait le développement de Saint-Roch par les arts et la culture, ce qui était une très bonne chose. Nous, on a une vision peut-être plus universitaire, d'en refaire une espèce de quartier latin avec des logements étudiants, avec une architecture urbaine qui cohabite avec cette vision universitaire qui est déjà implantée là-bas.
Développement d'intelligence artificielle aussi, j'imagine, oui. Si on parle de secteur universitaire, de se mettre à l'avant-plan. Là.
Ça, là, on oublie. Il y a plein de secrets bien gardés à Québec. Notamment notre expertise en matière d'intelligence artificielle qui est portée par les meilleurs chercheurs au monde à l'Université Laval qui développe un centre d'expertise en intelligence artificielle. On a ici des entreprises, des entrepreneurs extraordinaires. Donc, j'ai confié à Québec International le mandat de piloter un comité d'experts dont va faire partie notamment la rectrice de l'Université Laval pour nous déposer fin février, début mars, un plan d'action pour faire en sorte que Québec ne manque pas le virage de l'intelligence artificielle.
Vous avez été, bien, vous êtes probablement un bon élément pour ce projet-là. Vous étiez à l'université oui. Il n'y a pas si longtemps déjà.
Déjà
bien
trop.
Impliqué. Il nous manque quoi, mis à part ce que vous venez de décrire pour le secteur universitaire? Parce que là, vous avez parlé de logement. Entendre qu'il va y avoir des logements pas trop chers pour ces étudiants-là, etc. Est-ce qu'on y croit encore?
Plus que jamais. Plus que jamais. Et puis, c'est l'avenir de notre ville là, passe par ce secteur-là.
Tout simplement?
Bien, prioritairement, mais par beaucoup d'autres aspects, bien entendu. Mais il faut ce qu'on appelle en développement des effets tremplins. Et je pense que c'en est un. Québec est une ville qui a de grands cégeps avec de grands centres de recherche. Je pense à ce que fait Julie Simard au cégep de Sainte-Foy, qui dirige un centre de recherche en foresterie, qui est un des plus importants centres de foresterie au Québec. Je pense au COREM, qui est dans le parc industriel de Saint-Malo, qui est un des plus importants centres de recherche au monde en matière minérale. On vient de partout pour chercher l'expertise des gens d'ici. Donc, je pense qu'on a chez nous, tout secteur confondu, des compétences de pointe, des créneaux qui vont faire que Québec va se démarquer comme pôle scientifique, non seulement culturel, mais scientifique et industriel.
Le discours est intéressant, puis je pense que n'importe quel auditeur entend ça présentement, puis il peut entendre l'optimisme dans tout ça. Le problème étant que la CAQ n'est pas en début de mandat, reste moins d'un an avant la fin de ce mandat-là, on va manquer de temps.
Bien, je pense que la dernière chose dont on doit manquer en politique, c'est d'ambition. Et puis j'en ai pour Québec. Je suis un petit gars d'ici.
Est-ce que vos prédécesseurs en ont manqué?
Pas du tout, pas du tout. Écoutez, si ça va si bien que ça actuellement dans la grande région de Québec, j'imagine que mon gouvernement n'y est pas étranger.
Ça va-tu si bien que ça? Oui,
c'est marqué qu'on a eu la même question au même moment.
Les trois ont eu la même réaction.
Mais ça, là, écoutez, savez-vous que Québec est l'endroit au Canada où le taux de chômage est le plus bas, où le niveau d'emploi est le plus haut? Juste comme ça.
Mais ça,
là.
On a de la misère avec ce comparatif-là, nous. Parce qu'on comprend que statistiquement, quand on prend la vision globale, puis on le fait la même chose avec M. Marchand, maire de Québec,
bien
OK?
Sûr.
Puis on comprend, super, dans le contexte actuel, le contexte mondial, le contexte canadien ou le contexte québécois, on peut être en avance au niveau statistique à Québec. Mais ça reste que quand on regarde ce qu'on a fait auparavant, on est un peu des fois en
ouais, puis en contrepartie, on pourrait dire le développement économique, c'est pas bien fait dans les deux dernières années avec un recul en 2023 puis une faible augmentation en 2024 à Québec.
Ben moi, je n'en finis plus, depuis que je suis devenu ministre, de découvrir l'effervescence économique qui nous amène. Il y a quelques semaines, en début de mandat, j'étais au musée de la civilisation puis il y avait un événement organisé qui ressemble au dragon. Puis il y a de jeunes start-up, 16 jeunes start-up de Québec qui présentait des projets technologiques. Puis imaginez-vous donc, j'en venais pas.
Ouais.
Vous m'auriez dit ça il y a 20 ans, je vous aurais pas cru. Ils ont nolisé un autobus de Montréal pour faire venir des entrepreneurs de là-bas pour venir chez nous, investir chez nous, avec la relève de chez nous. On a le vent dans les voiles.
Alors, je vais vous croire. Je vais vous croire quand je vais le voir. Ça vous va, ça, comme réponse?
Jean-François, c'est déjà un bon début.
Hey, parlant de croire quand je vais le voir, le troisième lien.
Oui.
Là, vous dites, on ne veut pas faire un Tému du troisième lien.
Ben
on
ne
veut pas un troisième lien Tému. Mais là, on ne peut pas s'y évanier en deux de même par le boulevard Pierre-Bertrand. Ça n'a pas de sens.
Bien, écoutez, mon collègue Jonathan Julien va nous présenter, quelque part en février, les résultats de ses démarches. On fait un appel à qualification aujourd'hui même qu'on a lancé, je pense que la nouvelle était sortie à 9 h ce matin, où on dit à la communauté d'affaires internationales, voici ce qu'on a l'intention de faire. Seriez-vous partant pour embarquer avec nous dans un projet qu'on appelle en mode collaboratif? Donc, ça va être une nouvelle façon de faire pour accélérer le tempo de la réalisation.
Mais tu sais, quand même, si je reprends le tracé, là, séparer Vanier en deux, c'est une bonne idée?
Bien, on va laisser à Jonathan le soin de vous parler du tracé qu'il entend
proposer. Parce que le maire Marchand, il est contre pas à peu près de ça.
Je l'entends, puis on en a jasé ensemble, Bruno et moi, puis on en a même jasé ensemble ensuite avec le premier ministre qui est venu en visite à l'hôtel de ville il y a 15 jours. C'était une très, très bonne rencontre. L'idée, c'est de trouver le tracé le plus optimal possible, sachant qu'on a impérativement besoin à Québec d'un troisième lien pour unir deux communautés, la Rive-Nord et la Rive-Sud, qui ne forment plus qu'une seule et même économie.
Mais ça a été difficile pendant plusieurs années d'avoir une interconnexion, autant dans les discussions que dans les projets de transport structurants. Même si on ne parlait pas de troisième lien, il y a eu des années de chicanes à ce niveau-là. Qu'est-ce qui reste des chicanes entre Québec et Lévis que M. Blainey va devoir ajuster avec M. Marchand et que vous, en tant que gouvernement actuel au sein de la CAQ, vous allez devoir patauger dedans, puis surtout vous, en tant que ministre responsable de la capitale nationale?
Bien, je pense que c'est le propre de la politique d'essayer d'opérer des arbitrages.
Qu'est-ce qui reste comme désaccord?
Vous savez, vous avez parlé du maire de Lévis, Steven, ça donne que c'est un ami que je connais de longue date, dont je salue l'élection. Puis, je pense qu'en politique, on peut ne pas s'entendre sur certains enjeux. Ça fait partie de la démocratie. Si tout le monde pensait pareil, on serait en dictature. Mais ce n'est pas parce qu'on ne pense pas pareil qu'on n'a pas l'obligation de dialoguer ensemble pour trouver cet arbitrage dont je vous parlais tout à l'heure.
Donc, c'est j'entends que je parce que vous êtes amis, ça va peut-être aider dans les négociations.
Ah, ça ne peut certainement pas nuire.
Monsieur Simard, on vous remercie pour votre présence en ondes avec nous aujourd'hui.
Bien, je vous remercie beaucoup à vous trois de votre accueil. Puis,
moi, honnêtement, puis c'est rare que je le fais, mais je vais le faire. J'aime votre enthousiasme.
Bon.
J'aime votre dynamisme. J'aime votre vision que vous avez pour Québec. Mais maintenant, comme mon ami Maxime le dit, il reste juste un an à votre gouvernement.
Bon, on va mettre les bouchées doubles. Jean-François, on va mettre les bouchées triples.
Ils vont peut-être être élus, là.
Comment peut-être?
Mais en tout cas, Pablo Rodriguez.
Ah ouais, vous y croyez vraiment?
Absolument. Ouais. Absolument.
Ah ben non, ben là, vous ne pouvez pas dire que vous êtes sûr à 100% dans le contexte.
On ne peut jamais être sûr à 100%, mais moi, je ne serais pas devant vous aujourd'hui si j'y croyais
pas. Pourquoi vous remerciez Pablo Rodriguez de ça?
Les jeux ne sont pas faits. Ben moi, ce que j'entends là, partout autour de moi, c'est que depuis 2 mois, ça bouge. Ça bouge. Et d'abord, quand je demande aux gens, voulez-vous d'un référendum? Les gens me disent non. Voulez-vous d'un dollar québécois à la Paul Saint-Pierre Plamondon? Les gens me disent non. Voulez-vous du fling-flang libéral? Les gens me disent non.
Voulez-vous de la CAQ? Les gens disent non aussi.
Ben ça, de moins en moins non, mon cher Maxime.
Voulez-vous
de moins en moins non.
Dans un projet de la CAQ?
Mon défi, ça va être de vous surprendre, Maxime.
Excellent.
À bientôt, tout le monde.
Continuez avec votre enthousiasme. Je termine avec Pierre-Luc qui nous écrit en parlant du dossier du Mont-Saint-Anne et de RCR. Sacré-lait dehors. On est des milliers à ne plus vouloir dépenser une seule scène dans cette compagnie qui abuse de la gentillesse ou de la naïveté de nos gouvernements.
J'entends ça.
Excellent. Merci beaucoup, M. Simard, votre présence.
Et merci à vous trois.
On apprécie grandement. Merci. Ciao. Au revoir. C'était Jean-François Simard, ministre de la Capitale-Nationale, qui donnait sa première entrevue radio avec nous ici à Boulevard 101. Donc, c'est payant d'écouter Boulevard 101. Et Marceau, le matin, on fait une courte pause. Par la suite, on revient avec David Chabot. On va notamment parler des élections au Chili. L'extrême droite qui entre au Chili, c'est une première depuis les années 90, alors que Augusto Pinochet avait quitté la tête du Chili après une dictature d'environ 16 ans. Donc, on parle de ceci avec notre chroniqueur en politique internationale, David Chabot. Restez des nôtres à Marceau le matin.